Vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est tout de suite le moment de notre rendez-vous avec l'équipe de Jalmalve. Bonjour à vous, donc trois personnes de Jalmalve, dont la présidente Annie Pigolotti.
Bonjour.
Bonjour. Vous voulez vous présenter? Je ne sais plus prononcer votre nom.
Alors, Pierre Sommerens.
Sommerens, c'est quand même facile à prononcer quand on l'entend. Et Claude Ranchon, vice-présidente. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'un événement, mais peut-être rappeler, évidemment, Jalmalve, jusqu'à la mort, accompagner la vie.
Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci Odile de nous recevoir aujourd'hui. Donc, Jalmalve, on est venu quelques fois déjà se présenter. Effectivement, on a une occasion un peu spéciale parce que l'association a été créée en 1993, et donc ça fait la 30e année que l'on fête de l'association cette année-ci. Donc créée en 93 suite à une expérience, les soins palliatifs à domicile organisés par Mutualp. Et au départ, l'association s'appelait L'Autre Rive, mais elle a très rapidement rejoint une fédération qui s'appelle Jalmalve, donc jusqu'à la mort accompagner la vie, qui est une fédération donc organisée à l'échelon national et qui compte, je crois, quelque chose comme 80 associations locales aujourd'hui, et dont le but, ben, comme c'est indiqué dans son nom, c'est pas toujours facile à prononcer, mais c'est d'accompagner les personnes de grand âge, les personnes malades et même, je dirais, très malades, parfois en fin de vie, hein. Que ce soit en institution, donc on fait beaucoup d'accompagnement en EHPAD, ou bien à domicile, ou dans les services, par exemple, de soins palliatifs. Et donc nous avons démarré cette association en 1993, dans le cadre du SSIAD, tu me rappelles, Annie ?
Service de soins à domicile pour personnes âgées.
Voilà.
C'était une expérience nationale, vraiment une expérience qui a duré plus de 3 ans.
Et la responsable à l'époque de ce service était Michel Piquet, qui est psychothérapeute et qui, aujourd'hui encore, assure la formation initiale et continue des bénévoles de notre association. Alors, lors de sa création, les bénévoles avec à leur tête une dame qui s'appelait Katia
Dagonet,
donc ont créé l'association Jalmalve. Et dans le cadre de ces 30 ans, nous avons organisé, je dirais, 3 manifestations en 2023. La première a déjà eu lieu, c'était le 1er avril. Une journée de sensibilisation que nous avons tenue au Centre des Michels, où nous avons présenté l'association, la fédération, l'association, et nous avons également tenu un atelier sur les directives anticipées et une sensibilisation sur les dispositions de la loi Claes Leonetti. Alors, il reste 2 manifestations cette année pour célébrer cet anniversaire. La première, ce sera le 2 septembre, donc c'est très bientôt, une matinée porte ouverte qui se tiendra à l'atrium. Donc c'est le samedi, au moment du marché, où nous donnerons l'occasion aux personnes intéressées de rencontrer les bénévoles de notre association locale. Donc on a 16 bénévoles. Pour l'instant, qui sont actifs dans 8 établissements de la région, donc essentiellement des EHPAD autour de Digne-les-Bains, mais on va parfois un petit peu plus loin. Le plus loin que nous allions, c'est près d'Entrevaux. Également, lors de cette journée, on discutera un petit peu, on représentera un petit peu l'association et ce qu'elle fait, la fédération. Et on évoquera également le cadre législatif de nouveau, la loi Claes Leonetti et les directives anticipées. Et puis, nous aurons une autre manifestation au Cine-Étoile le 12 octobre. Mais là, je vais laisser ma collègue Claude Ranchon vous en dire un mot.
Donc, je vais un petit peu plus détailler la matinée.
Il vient de présenter Claude Ranchon pour parler de... Bon, ok, d'accord.
On fait dans l'ordre.
Alors
donc, je donne un peu plus de détails sur la matinée Portes ouvertes, le samedi 2 septembre de 9h à 12h. Bien sûr, c'est gratuit, c'est ouvert à toute personne. Alors, toute personne qui souhaite approfondir les problématiques liées au grand âge, notre société est bien dans ce cas, à la maladie grave, à la fin de vie, à la mort et au deuil, ou qui désire des informations sur les soins palliatifs. Donc, comme le disait Pierre, on représentera Jalmaf, Haute-Provence. On a à ce sujet un diaporama. Les différents types de bénévolat, je détaillerai après. La loi Néotoliclebs, on en a parlé. L'accompagnement des personnes âgées très malades en fin de vie. Donc, bien sûr, il y aura un petit stand avec des documents à porter. Alors, je rappelle, cela se situe à l'Atrium. L'Atrium, c'est à côté de la mairie, entre la mairie et le centre des Michel. Alors, pour tout renseignement, je donne nos coordonnées. Alors, le téléphone avec un répondeur, 04 92 32 11 01. Éventuellement, on peut appeler sur un portable le 06 87 85 67 40. Et le mail jalmav04, donc J-A-L-M-A-L-V, 04@wanadoo.fr. Et je rappelle la maxime de la fédération, exister c'est être en lien, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de créer, du lien. Voilà, alors donc c'est, je reprends un petit peu point par point le grand âge. C'est vrai que le grand âge, on parle beaucoup de ça parce que, bon, la population vieillit. Et donc, on interroge la place des personnes âgées dans la société et surtout le regard que l'on porte sur ces personnes. Ces personnes dont on dit toujours, nous, qu'éventuellement, elles ont perdu des compétences, mais pas de leur dignité. La dignité, ça se lit dans le regard que l'autre porte sur vous. Et ça, on essaye de le rappeler le plus souvent possible, le rôle de la personne âgée, son histoire, etc. La maladie grave. Donc la maladie grave, c'est vrai qu'on se trouve fort dépourvu quand on a l'annonce de certains diagnostics. Et donc ça peut être important d'en parler avec quelqu'un extérieur. On parle toujours dans Jalmaf de l'écoute un petit peu triangulaire, c'est-à-dire que nous, on ne prend ni la place de la famille, ni la place des soignants, ni on fait de projet sur la personne que l'on accompagne. Et accompagner, c'est être à côté, éventuellement tenir la main. On est une oreille, on est à l'écoute. Et c'est vrai que certaines choses, que ce soit l'entourage ou la personne atteinte par une maladie grave, certaines choses sont difficiles à dire en famille. Donc c'est vrai que la personne extérieure peut apporter du soutien. Donc dans la maladie grave, il y a toujours le contexte, les hospitalisations, c'est pas toujours facile. Actuellement, dans certains services, des manques de personnel, des difficultés à se faire entendre. Bon, il y a le traitement, on est encore dans le traitement curatif. Et puis on passe à un autre stade, donc la fin de vie. La fin de vie, donc je veux rappeler surtout la notion de soins palliatifs. Souvent, on commence les soins palliatifs trop tard. Soins palliatifs, cela ne veut surtout pas dire mort imminente. Ça veut dire qu'on n'a plus de traitement curatif. Il peut y en avoir, parce qu'on peut faire par exemple des rayons pour atténuer la douleur, on va mettre des calmants pour, dans le même but, mais il n'y a plus d'espoir de vraie guérison. Il peut y avoir des rémissions, etc. Donc il y a le soin palliatif, et ce mot fait peur, on nous dit souvent « mais changez de nom, Jalmaf aussi enlever le mot mort », mais non, justement c'est de cela que l'on veut parler, parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arriver, c'est le deuxième pied de notre association, arriver à démystifier le mot « mort », à en parler, à faire... c'est une étape de la vie. Il y a une justice parfaite, me répétait ça une dame que j'ai accompagnée derrière au banc, qui me dit « on va tous mourir, de toute façon ». Voilà. Et donc, bien distinguer la notion de soins palliatifs et de soins palliatifs terminaux. Soins palliatifs terminaux, c'est la fin, effectivement. Alors, dans la loi Leonetti Kleps, que l'on répète, nous, au niveau de la fédération, et nous, au niveau localement, on relaie, elle n'est pas connue suffisamment et elle n'est pas appliquée. Encore en ce jour, et j'en faisais état dans ma dernière lettre, il y a encore trop de personnes qui soignent. On n'entend pas cette demande de soins, de recourir aux soins palliatifs. Le médecin, il est formé à guérir. Et je veux dire, j'écoutais encore hier soir un reportage sur monsieur Kleps, Claes, bon, je ne sais plus moi avec ma prononciation. On recourt trop tard aux soins palliatifs. Et les médecins sont surtout formés à guérir. Il y a très peu de médecins qui interviennent au niveau des soins palliatifs. Souvent, la mort est considérée comme un échec, alors que, je veux dire, ça fait partie de la vie. Alors, les buts de soins palliatifs. Bien sûr, calmer la douleur. Tant qu'on n'a pas calmé la douleur, il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Recourir aux directives anticipées et les appliquer. Et là, attention à leur rédaction. Pierre avait fait un très bon travail au niveau de... quand on a fait cet atelier. C'est vrai qu'il faut savoir bien les rédiger. Par exemple, on écrit, on veut continuer l'hydratation. Eh bien, non, on le sait, l'hydratation, ça produit des œdèmes et ça fait souffrir, ça produit de l'encombrement bronchique. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'il faut... là aussi, se faire peut-être conseiller pour rédiger ces directives anticipées. Maintenant, on les demande de plus en plus.
Et justement, vous êtes là pour conseiller les gens, pour les aider
tout à fait.
Avoir une personne comprendre aussi ce que sont les directives
tout
anticipées.
Tout à fait. Ça ne fait pas mourir de les écrire. Mmh. C'est très important. Je veux dire, il faut les écrire quand tout va bien, quand on est jeune. À tout moment, et il faut aussi choisir une personne de confiance. La personne de confiance, c'est pas la personne que l'on va appeler en cas, la personne à prévenir en cas de. Personne de confiance, c'est quelqu'un qui est détenteur de vos dernières volontés, et si vous n'êtes plus en mesure de les énoncer vous-même, c'est elle qui sera le porte-parole. Et donc, en fin de vie, on peut avoir recours à la sédation. La sédation, il y a là aussi plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des sédations intermittentes. C'est-à-dire qu'on va mettre des produits pour une personne dont les traitements antidouleurs ne sont pas suffisamment efficaces, on va l'endormir, mais elle va se réveiller. La sédation, les produits, ce sont des produits qui ne sont pas létaux et ce sont des produits qui ont des... comment ça s'appelle c'est réversible. L'antidote. Et après, en dernier, voilà. Tu pourras peut-être reprendre, Pierre, certains éléments. En dernier, on a droit à la sédation terminale et continue. Et là, les doses sont... la personne s'endort. Et elle dort. Elle meurt sans souffrance, en dormant. Dernier point dont on s'occupe, c'est le deuil. Ça aussi, au niveau social, le deuil, il est souvent mis de côté. Et c'est vrai qu'avant, les personnes endeuillées avaient un brassard. On répète toujours la même chose. Maintenant, on s'étonne presque que quelqu'un pleure lors d'obstèques. Et c'est vrai que les émotions, c'est important de les faire exprimer. Et que, donc, au niveau du deuil, c'est important. Donc, nous, on fait de l'écoute deuil. Voilà. Voilà, donc on représentera bien sûr Jalmav avec toutes ses valeurs, etc. Il y aura des documents à disposition sur les directives anticipées. On a aussi ce fameux jeu de cartes dont on avait parlé là, notre dernière entrevue ici. C'est à vos souhaits, où je veux dire, sont écrits tout ce que les personnes aimeraient en leur fin de vie. La règle du jeu, c'est de les classer en trois temps, très important, important et peu important. Et donc, on peut, comme ça, seul ou à plusieurs, réfléchir à ce qu'on voudrait à sa fin de vie. Alors, nous avons encore dernièrement on travaille beaucoup avec la fédération en visioconférence. Et ça nous évite, nous, les Dinois, d'aller sur Paris. Même si on aime Paris, c'est parfois un peu plus confortable. Et donc, ils ont sorti dans leur dernier volet, je dirais, de campagne de recrutement, le kit « Ma fin de vie, j'ai pigé, ça me concerne ». Mais ça, Pierre va un petit peu développer.
Oui, voilà. Alors.
Voilà, donc peut-être au départ, préciser deux, trois éléments sur les directives anticipées. Donc les directives anticipées, les objectifs, c'est d'exprimer bien à l'avance sa volonté ou ses refus quant à ce qui va se passer à la fin de vie. On pense surtout, mais pas uniquement, aux actes médicaux. Donc est-ce qu'on veut la poursuite des actes médicaux qui visent à maintenir le corps en vie, on va le dire comme ça, ou bien est-ce qu'on veut que ces actes médicaux s'arrêtent à un certain moment ? Bon, on pense notamment aux personnes qui ont un coma très profond et dont le corps médical pense qu'il est irréversible. Est-ce qu'on continue ou pas ? Quelles sont les limitations que l'on met à ces actes médicaux ? Bon, il peut y avoir des limitations, je dirais, physiques. Hein. On peut, par exemple, refuser, comme l'a dit Annie, qui est à toute force une hydratation. Il peut y avoir des limitations qui sont plus d'ordre religieux. Hein. Il y a des personnes, sans émettre de jugement de valeur, mais qui refusent certains actes médicaux à cause de convictions religieuses. Et dans la mesure où on ne parle pas d'enfants ou de mineurs, mais d'adultes consentants, ben, ce sont des volontés qu'il faut respecter. Il y a également, outre des actes médicaux, ben, d'autres choses que l'on peut souhaiter dans le cadre de sa fin de vie, si on est plus conscient. Par exemple, on peut demander à recevoir les derniers sacrements pour les chrétiens, alors ou au moins la présence d'un prêtre ou d'un imam ou d'un autre représentant religieux ou spirituel. On peut demander à ce que sa famille ou certains membres de sa famille soient prévenus et dans la mesure du possible soient là au moment du décès ou très vite après. Ou au contraire, on peut demander à ce que certaines personnes n'y soient pas. Je veux dire, il y a plein de choses auxquelles on peut penser lorsque on rédige la directive anticipée, comme l'a dit Annie, bien à l'avance, et qui permettent de respecter ces volontés. Ce n'est pas un testament, hein, les directives anticipées. Donc le testament, on dispose de ses biens. Il y a certains éléments qui peuvent se recouper, par exemple, dans les dernières volontés, si on souhaite une cérémonie religieuse, quel type d'enterrement, etc. Bon, on peut voir ce genre de dispositions dans les directives anticipées. On peut également les voir dans un testament. Mais en principe, un testament est plus une disposition de son patrimoine, hein, on va dire comme ça. Tandis que les directives anticipées, c'est vraiment ce qui se passe avec vous au moment de la fin de vie. Alors, au niveau formalisation, c'est très facile. Hein. Il suffit de les écrire sur papier libre ou suivant des modèles. Il y a un très bon modèle que l'on trouve sur Internet qui est édité par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Il y a des applications également qu'on peut trouver pour mettre sur son smartphone. Mais donc un papier libre suffit, daté et signé, c'est gratuit, ce n'est pas nécessaire d'aller chez le notaire, on peut le faire, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Par contre, pour qu'elles soient appliquées, il faut quand même qu'on puisse les trouver au moment où on en a besoin. Donc ce que l'on conseille, c'est d'en faire plusieurs exemplaires, d'en donner un à son médecin traitant si on est hospitalisé, au secrétariat de l'hôpital qui peut le verser dans le dossier médical. Un exemplaire à la personne de confiance, donc on en a parlé un petit peu, je peux y revenir une seconde, et un exemplaire à ses proches, qui seront, par exemple, les personnes à prévenir en cas d'accident, de façon à ce que, ben, si l'événement se déroule, ben, on ait le réflexe, qu'on ait l'accessibilité, le réflexe de consulter ces directives. Voilà. Alors, tu voulais que je parle d'autre chose encore ?
Tu as dit que tu allais détailler un petit peu la personne de confiance.
Oui, alors la personne de confiance, donc c'est la personne que l'on choisit pour interpréter sa volonté lors de la fin de vie. Alors, au niveau législatif, on peut choisir une personne de confiance, c'est un droit. On peut rédiger ces directives anticipées, c'est un droit également. On n'est pas obligé de faire les deux. C'est fortement conseillé, mais les deux dispositions sont indépendantes. Alors le rôle de la personne de confiance, ben, ça vise, c'est la personne qui est censée le mieux connaître ses volontés en cas de lors de la fin de vie. Donc, pour que ce rôle soit exercé le mieux possible, ben, il faut préparer, en fait, la personne de confiance. Donc, le mieux, c'est de rédiger les directives anticipées, de les rédiger ensemble avec la personne de confiance pour qu'elle comprenne bien ce que chaque phrase dans ces directives signifie. Puis, il y a évidemment des situations, on ne peut pas tout prévoir, il y a des situations où l'interprétation est nécessaire, ou bien où il n'y a pas, dans les directives anticipées, de solution claire. Bon, peut y avoir des... je donne un exemple, par exemple, il y a des personnes qui disent, bon, ben moi, en fin de vie, ayant en tête une image où elles sont grabataires, en EHPAD, à 90 ans, et se disent, bon, ben... je ne voudrais pas qu'on s'acharne si je tombe dans le coma, je voudrais qu'on me laisse aller. Et cette personne dit ça à 50 ans, et quelques jours plus tard, elle a un accident de voiture et elle se trouve dans le coma. Les médecins disent, bon, on n'est pas sûr, mais on pense qu'on peut la ramener, mais on n'en est pas sûr. Ben, il est clair que dans ce cas-là, la directive anticipée qui a été rédigée dans un contexte avec une idée précise de la situation dans laquelle elle doit s'appliquer, ben, cette directive anticipée ne s'applique pas à la situation que vit la personne. Et donc c'est là à la personne de confiance à dire « oui, mais attention, ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire ». Et dans ce cas-ci, ben, c'est pas cette directive-là, en principe, ne doit pas s'appliquer. Alors je voudrais encore préciser deux, trois choses. La première, c'est que les directives anticipées sont d'application impérative pour le corps médical. Donc si les volontés sont clairement exprimées et correspondent à la situation dans laquelle se trouve la personne, ben, le corps médical, en principe, doit respecter ces directives anticipées. Alors, il peut y avoir des situations où il y a débat. Dans ce cas-là, c'est un collège qui décide, donc y compris les soignants, le médecin, mais ils sont obligés de consulter la personne de confiance. Donc là encore, c'est important d'avoir une personne de confiance, parce que si elle a été nommée par le patient, elle doit être consultée. Donc son rôle est critique, je dirais, dans l'appréciation de la situation. Voilà.
Oui, je veux rajouter un petit peu, peut-être deux mots sur comment ça se passe à Digne, ce qui peut peut-être intéresser vos
auditeurs.
Tout à
fait, oui.
Donc, quand on est hospitalisé, on peut faire appel à l'équipe territoriale de soins palliatifs, qui comprend deux médecins, des infirmiers, une psychologue, une assistante sociale. Donc, on peut aussi faire appel à eux à domicile. On aura des documents lors de la journée, de la matinée à disposition avec leur numéro.
Le samedi 2
septembre. Et donc,
ils
viennent éventuellement explorer, entre guillemets, la situation, éventuellement aussi permettre pour des gens hospitalisés un retour à domicile quand c'est désiré. Et donc, ils peuvent aussi rédiger une ordonnance anticipée par rapport au fait de prévoir, en cas d'aggravation de la situation, des produits qui vont permettre une sédation terminale et continue, et ça peut se faire à domicile. Donc là, il y aura une coordination entre l'équipe territoriale de soins palliatifs, le médecin traitant, bien sûr, et les infirmiers libéraux qui s'occupent de la personne. Donc c'est de en quelque sorte de l'hospitalisation à domicile. Donc ça, c'est pour les personnes dont on dit toujours qu'il y a 3/4 des personnes qui veulent mourir à domicile et qui meurent à l'hôpital, et 1/4 des personnes qui, effectivement, décèdent à domicile. Donc c'est vrai que sur Digne, malheureusement, nous n'avons pas de vrais lits de soins palliatifs. Il y a une unité qui s'est quand même ouverte à Manosque. C'est déjà plus près qu'Aix, hein. Ils ont 10 lits. Ça semble très bien marcher. Par contre, ici, il y a des lits identifiés soins palliatifs. Mais il y en a surtout au niveau de l'établissement du Cousson, où la prise en charge est avec en coordination avec l'équipe, et puis ils sont très bien formés aux soins palliatifs, donc ça se passe très bien. Voilà. Donc il faut que les personnes sachent qu'elles peuvent faire appel aux soins palliatifs et qu'on doit entendre cette demande. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure la lettre avec... Il y a encore des personnes qui souffrent, qui ne sont pas prises en charge correctement, et dont on n'écoute pas la demande. Et ça, c'est ça qui fait le lit aux demandes de passage à des produits létaux, parce qu'on a vu quelqu'un de sa famille souffrir. Or, si la loi est connue et si la loi est bien appliquée, on ne doit pas en arriver là. Voilà.
Alors, la parole est à Claude Ranchon.
Oui, donc je vais vous parler de la deuxième manifestation qui est prévue pour les 30 ans de Jeanne Malve. C'est une projection d'un film au Ciné-Étoile à Digne, le 12 octobre à 17h45. Le film s'appelle « C'est la vie ». Il est avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner. Il sera suivi d'une conférence d'Amanda Castello, qui est une juriste spécialisée dans les droits humains et qui parlera à partir de son livre « Calmer sa peine ». Un ouvrage qui pourra être acheté et dédicacé sur place. Voilà, l'entrée est fixée pour le film à 5€. Il y aura un buffet gratuit à la fin et toute l'équipe de Jeanne Malve sera bien sûr à votre disposition pour continuer le débat et vous informer en tant que de besoin sur les divers textes relatifs à la maladie grave, à la fin de vie et aux directives anticipées qui viennent d'être exposées.
Donc ça, ce sera au mois d'octobre, le 12 octobre.
On reviendra te voir.
Voilà, très bien. Tout est dit.
Alors, juste si, pour conclure, donc, nous avons deux collègues, dont Pierre, qui sont allés au congrès, c'était Rennes, hein, donc c'est là qu'ils ont rencontré Amanda, et qui parle du deuil. Et donc, c'est vrai que le thème cette année, c'était le deuil, d'où l'importance. Donc, nous, on va distribuer très prochainement un flyer par rapport au deuil, pour les personnes qui veulent être écoutées, qui sont dans cette situation. On a le bonheur, je dirais, d'avoir créé un partenariat avec l'AVF, et donc qui nous prête une salle au centre des Michels, ce qui fait qu'on aura un peu plus de possibilités d'accueil qu'avec notre permanence mensuelle, qui, je le rappelle, a lieu le 4e mardi du mois de 14 à 16 heures au centre des Michels. Et on travaille aussi en partenariat avec l'association Soins Palliatifs de Manosque, qui, eux, interviennent dans le service de soins palliatifs. On se partage un petit peu le département. À l'origine, l'autre rive était sur le département. Maintenant, nous, on est plutôt autour de Digne et eux, plutôt autour de Manosque. On est en train d'essayer de créer un site commun sur les soins palliatifs.
Peut-être ajouter pour l'accompagnement au deuil. Donc, c'est une des activités, une des missions que Jeanne Malve s'est donnée, c'est d'accompagner également les familles, les personnes qui sont endeuillées. Donc nous avons dans notre équipe de bénévoles ici deux personnes qui sont là, qui sont Annie et qui sont Claude, qui sont spécialement formées pour l'accompagnement des personnes en deuil. On constate aussi bien à Jeanne Malve ici en Haute-Provence que dans la plupart des associations que on a un peu de difficulté, si vous voulez, à promouvoir, si je peux utiliser ce mot-là, ce type d'activité, ce type d'accompagnement. Et nous pensons que c'est parce que la plupart des personnes qui traversent un deuil ne savent pas que ces accompagnements sont disponibles. Et donc il y a des personnes qui sont là pour les écouter, pour les aider à traverser ce moment difficile de la vie. Et on va donc essayer de rendre cette activité un peu plus connue, donc notamment en s'adressant à tous les professionnels qui gravitent autour de la disparition des personnes. Donc on peut penser, par exemple, évidemment aux pompes funèbres, aux marbriers, aux notaires, aux médecins, aux corps ecclésiastiques, de façon, et on a produit un petit flyer qui va, je dirais, rendre un peu plus, donner un peu plus de visibilité à cette activité. Parce qu'on pense véritablement qu'il y a une demande d'accompagnement. Il y a des personnes en souffrance qui traversent un processus de deuil très compliqué. Et malheureusement, la plupart ne savent pas qu'elles peuvent se faire aider. Voilà.
Merci Pierre, merci Claude et merci Annie pour toutes ces informations capitales sur l'accompagnement, ces aides donc si importantes pour faire un deuil et puis accompagner les personnes en fin de vie. Merci et puis rendez-vous donc le 2 septembre, samedi. C'est ça, le matin de 9h à midi à la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains. Merci et à bientôt. Au revoir.